J'aimerais saluer les gens de Chibougamau qui nous écoutent en différé. Donc, je suis un peu nerveux. C'est la première fois que je prêche à Chibougamau. Mais on est content que vous puissiez vous joindre à nous. Et si vous passez par Trois-Rivières, viendrez nous voir. Ça nous fera plaisir de voir les gens qui nous entendent et qu'on ne voit pas. Donc, vous êtes bienvenus. Le message ce matin, le croyant et l'humanisme moderne. Là, vous allez dire, c'est quoi ça, l'humanisme, et pourquoi parler de cela? En québécois, on pourrait dire « que c'est ça » et « que ça donne d'en parler »,« que ça change dans ma vie ». Et c'est un peu ça que j'aimerais, mon défi ce matin, c'est de ne pas vous endormir et d'essayer de vous expliquer comment ce mouvement, cette idéologie-là nous influence. Et vous n'avez pas de zapette, vous ne pouvez pas changer de poste, c'est moi qui ai la zapette, fait que j'étais obligé de rester. Et l'humanisme qu'on appelle aujourd'hui humanisme moderne ou séculier, si les deux sont synonymes, c'est une idéologie qui remplace, qui rejette Dieu et qui le remplace par l'homme. À l'origine, l'humanisme n'était pas ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Et on va voir comment est-ce que ça peut nous influencer. Définition vraiment abrégée ici, c'est une idéologie qui rejette Dieu et le remplace par l'homme. Pas compliqué. Et sur le site Internet, vous allez voir, Gilles m'a montré, il y a une image, c'est l'homme est au volant. Des fois, on dit l'homme est au volant, Dieu est à côté, mais avec l'humanisme, Dieu est à l'extérieur. Dieu n'est même pas là. Donc, ici, on voit dans le cadran de droit, là, christianisme. Dieu créa l'homme à son image, donc la loi morale universelle, Dieu et la Bible. Donc, la Bible est importante, c'est un absolu pour nous, c'est la loi de Dieu. Et c'est Dieu qui a créé l'homme, et c'est Dieu qui a le droit de donner le mode d'emploi, comment on doit se comporter. Alors que l'humanisme séculier, c'est l'homme qui crée Dieu à son image. Donc, l'homme se fait un Dieu comme il pense, comme il veut, et en créant un Dieu comme il veut, c'est lui qui décide de la moralité, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Si nous sommes Dieu, on est capable, comme Adam et Ève le voulaient, de décider qu'est-ce qui était bon et ce qui était mal. Et il n'y a pas besoin d'être sage ou philosophe pour constater que notre société rejette de plus en plus le Dieu de la Bible et ses standards. Pas seulement, pourquoi dans notre société, entre guillemets, évoluer, il y a autant de misère, de violence, de corruption, d'immoralité? On est supposé de s'améliorer. Donc, puis l'humanisme, c'est une philosophie, une idéologie qui transforme notre société, notre façon de voir les choses. Donc, qu'on le veuille ou non, on est affecté. Comme je dis des fois, le légume qui est dans un bouillon de soupe, il prend le goût, sans s'en rendre compte, du bouillon. Et on est dans une société où on est influencé par toutes ces valeurs-là qui sont véhiculées. Et c'est un peu pour ça que je voulais vous en parler ce matin. Comme le vent, on ne sait pas d'où il vient, d'où il va, mais on ne le voit pas, mais on voit ses effets. On voit ses effets. Donc, d'où ça vient tout ça? Et si on veut ignorer cette façon de penser, cette idéologie, on ne pourra pas ignorer ses effets. On va les constater, on va être influencé par cela. Et on se souvient de Lot et ses filles, qui ont été à Sodome et Gomorrhe, ont été influencées par la moralité de cette ville-là. Et cette ville-là. Et leur moralité a été changée. Ils ont fait des choses, à un moment donné, les deux filles de Lot ont couché avec leur père. Prions, si vous voulez. Notre Dieu, on sait que tu es ici ce matin avec nous, mais on te demande d'aller d'une façon spéciale. Je te prie de m'aider à bien présenter aux mes frères et sœurs ce que tu as mis sur mon cœur. Et fais, Seigneur, que ça ne pose pas de contradiction, que ce soit clair. Je te prie que ce soit ta parole qui soit prêchée, que ce soit la vérité. Et notre Dieu, je te prie d'être avec ton serviteur. Je te prie d'être avec les gens qui sont ici et que, par ton esprit, Seigneur, tu nous éclaires et tu touches nos cœurs. Amen. Donc, mes objectifs ce matin, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre culture, pourquoi. Ensuite, comprendre comment notre société, comment nous, les croyants et l'Église, on est influencés par cela. Et regarder quelle attitude on doit avoir. Okay? Définition un petit peu plus longue du mot « humanisme ». Dans le Petit Larousse, j'ai pris la plus courte que je trouvais. Donc, c'est une position philosophique qui met l'homme et les valeurs humaines au-dessus des autres valeurs. Donc, les valeurs que l'homme décide, l'homme lui-même, c'est ça qui prime. Maintenant, un petit peu d'histoire. D'où ça vient, ça? pas tombé comme ça. Donc, c'est un mouvement intellectuel qui s'épanouit surtout dans l'Europe, au 16e siècle, dans l'époque de la Renaissance. Et c'était marqué par le retour au texte antique. Et ça là, c'était un peu une réaction contre le catholicisme aussi à l'époque, où les gens ont dit, les gens sont ignorants. Il faut traduire la Bible, traduire les textes antiques, aller les chercher pour que les gens soient plus éclairés, les gens aient plus de compréhension de ce qui se passe. Donc, à l'origine, le mouvement humaniste, c'était pour aider les hommes à comprendre davantage des choses, même ça a amené des gens à connaître davantage la parole de Dieu. OK? Donc, quand ça s'est... ça a eu un essor là, en Europe. Si on regarde la définition dans l'encyclopédie Wikipédia, l'encyclopédie libre qui est sur Internet, ils ont fait une différence entre l'humanisme séculier et l'humanisme religieux. L'humanisme séculier ou moderne, c'est un courant de pensée se fondant sur la raison et l'éthique. L'éthique, c'est on décide qu'est-ce qui est bien ou qui est mal. Et l'éthique, pour aider au développement personnel des individus et l'amélioration de la société. C'est pas mauvais comme tel, mais on va aller voir où est-ce que ça va nous amener. Ensuite, il est différent de l'humanisme religieux, car il est fondé sur la croyance ou la soumission. C'est ça. Il diffère de l'humanisme religieux car il n'est pas fondé sur la croyance ou la soumission à un dogme religieux. Donc, il n'y a aucune soumission à la Bible. Son principe est que les êtres humains sont naturellement capables de morale, c'est-à-dire on est capable par nous-mêmes de décider qu'est-ce qui est bien et qui est mal, et qu'ils doivent fonder leurs décisions sur la responsabilité et les conséquences éthiques plutôt que sur la croyance religieuse. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est la conséquence. Tu peux faire quelque chose, tu ne fais pas de mal à personne, c'est correct. Tu sais, ça dérange pas les autres, tu fais pas mal à la personne, c'est correct. Et il y a certains humanistes qui ont dit, oui, ça remonte plus loin qu'à la Renaissance. Ils ont dit ça va même, pas uniquement en Europe, mais ça peut remonter jusqu'en Asie. Et on a cité certains textes. On connaît Confucius. Confucius, c'est un des premiers philosophes qui a exclu le fondement divin dans la recherche de l'harmonie sociale. Puis, on a le bouddhisme, qui Confucius est un peu à l'origine du bouddhisme. Le bouddhisme rejette tout ce qui est Dieu, au moins à l'origine, rejetait tout ce qui était Dieu, croyait à la réincarnation. Et on connaît Épicure, le dieu des épicuriens. Épicure, il disait, lui, qu'il n'avait pas besoin de Dieu ou des dieux pour établir son éthique. Donc, l'homme est capable lui-même de décider entre le bien et le mal encore. Et un autre grec qui était Protagoras disait que l'homme est la mesure de toute chose. Donc, c'est toute part de l'homme, et à part de l'homme, il n'y a pas d'autre chose. Il est le centre. Okay? Une autre définition ici donnée par un chrétien. J'ai trouvé une publication sur Internet. C'est un M. Stan Lightfoot qui est un pasteur d'une église à Colorado Springs, là où vient M. Rigier. Okay? Donc, c'était le Rustic Hills Baptist Church. Et je crois que ça reflète bien ce qu'est l'humanisme pour comment un chrétien le perçoit. Lui, il dit que c'est une religion même. Une religion centrée sur l'homme, dont les racines proviennent de l'ancien paganisme, ayant pour but d'exalter l'humanité et le monde visible, donc uniquement qu'est-ce qu'on voit, à une position d'honneur en détruisant la foi en Dieu et le surnaturel. Donc tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui n'est pas palpable, calculable, scientifiquement prouvable, démontrable, ça n'existe pas. Okay? Il ajoute, c'est une tentative humaine pour résoudre les problèmes du monde sans aucune intervention surnaturelle. Donc c'est l'homme qui veut régler tous ses problèmes sans Dieu. Je suis allé dans le site Internet de l'Association humaniste du Québec, parce qu'on est une association au Québec, association humaniste, et ça dit « Êtes-vous humaniste? » Donc, ils ont posé quelques questions pour savoir si vous étiez humaniste. Donc, vous êtes humaniste si vous répondez oui à toutes ces questions-là. OK? Donc, vous êtes un humaniste moderne si vous êtes sceptique face à tout ce qui est surnaturel. Comme la résurrection de Jésus, c'était surnaturel, les miracles sont surnaturels. Traverser de la mer rouge aussi, c'est surnaturel. Donc, si vous êtes sceptique, vous pouvez être humaniste. Vous êtes humaniste si vous vous considérez non religieux. Donc, vous rejetez toute religion. Si, aussi, vous êtes humaniste si vous pensez que cette vie est la seule que vous aurez. Donc, après la mort, plus rien. Fini. Okay? Ensuite, vous êtes humaniste si vous êtes convaincu que l'on peut avoir une bonne éthique sans religion. Donc, décider du bien ou du mal sans aucun absolu qui nous dicte le bien ou le mal. Vous êtes un humaniste si vous croyez que l'espèce humaine va progresser grâce à ses propres réalisations et non à cause d'une intervention divine, une grâce ou une rédemption. Donc, on est capable de s'en sortir nous-mêmes, les hommes. On va progresser, on va évoluer. C'est difficile quand même à croire, mais c'est écrit. Vous êtes humaniste si vous croyez que la science et la raison sont des façons plus fiables d'acquérir la connaissance que la foi, la révélation, l'autorité ou une tradition. Donc, la science est primordiale. La foi, c'est pas une façon d'acquérir la connaissance pour eux. Et, dernièrement, vous êtes un humaniste si vous croyez que le sens et la signification de votre vie vous appartient et sont votre responsabilité. Donc, c'est à vous à décider pour vous. Et c'est pas un être extérieur qui va le décider. Donc, et beaucoup de gens adhèrent à ça. Je parle du mouvement humaniste séculier parce que, avant ça, il y a 100 ans, c'était pas la masse ou tout le monde qui adhérait à ça, mais depuis, je rappelle, les années 1930, et ça a été en évoluant, si bien qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens rejettent Dieu, rejettent ce qui est religieux, rejettent ce qui est surnaturel, et le mouvement humaniste a pris une ampleur très, 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 très grande. C'est pas vraiment minime, et on le voit même dans notre société. Aujourd'hui, on a peur de dire « Joyeux Noël », OK? Parce que Noël veut dire naissance. Naissance de qui? De Jésus. On va en parler tout à l'heure. OK? Donc, l'humanisme, c'est comme une médaille à deux faces. Il y a du bon, il y a du mauvais. Bon côté de la médaille, c'est que ça vise le développement du potentiel et du bien-être de l'homme. C'est très bon. Ça désire instaurer une société idéale. C'est bon aussi. Et Jésus est un humaniste dans le sens qu'il veut le bonheur de l'humain. Jésus, il est mort sur la croix pour les hommes. Donc, Dieu veut notre bonheur. Donc, c'est un humaniste dans ce sens-là. Mais Jésus n'est pas un humaniste dans le sens d'humanisme moderne aujourd'hui qui rejette Dieu. Donc, l'humanisme serait mauvais dans le sens qu'il dit que la religion nuit à l'épanouissement de l'homme et elle rejette Dieu, le remplace par l'homme qui est le seul maître de sa destinée. Karl Marx, qui est le fondateur du marxisme, qui est la base du communisme, lui disait « La religion est l'opium du peuple. » Donc, la religion endort le peuple. Donc, ça enlève l'intelligence. Mais Dieu, il dit « Celui qui est intelligent, c'est lui qui cherche Dieu et qui croit en Dieu. » Donc, tout est dans la façon de s'y prendre pour assurer le bonheur de l'homme et sa survie, son salut. Est-ce que c'est l'homme qui peut sauver l'humain ou c'est Dieu qui va le sauver? Et Jésus, il a un plan à long terme pour sauver, et l'homme est assuré son bonheur, mais il est différent de celui des humanismes modernes. Et d'après la parole de Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure avec Jocelyn, nous sommes des pécheurs, on ne peut pas sauver nous-mêmes, on a besoin de regarder à Jésus, qui est le seul sauveur. Et d'après les humanismes modernes, on est assez intelligent pour assurer notre salut, et j'ajoute, sur terre. On va plus loin que ça, excusez. La racine de l'humanisme moderne vient premièrement du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et on va regarder ici. Ah, ici, bon, j'avais oublié de la montrer. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Elle dit, « Madame, je suis une humaniste parce que je crois en vous, je crois en moi, et que nous sommes la seule solution. » Il n'y a pas de solution en dehors de l'homme. Nous allons maintenant dans la Genèse. Nous allons lire quelques versets. Et ça vient vraiment de l'origine, là, le désir de l'homme et de la femme d'être indépendants de Dieu. Donc, Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Donc, le diable, il dit, c'est pas à Dieu de vous dire ce qui est bien ou qui est mal. Dieu, c'est un mensonge. Dieu veut garder des choses pour lui. Dieu sait bien que quand vous allez faire ça, donc il aura fait douter de Dieu, de la bonté de Dieu. OK? Dans la traduction Bible du Sommeur, la fin, ça dit, vous serez comme des dieux, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Donc, le diable dit, bon, c'est pas à Dieu à décider qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal. Vous êtes capable de décider qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal. Et si vous mangez du fruit, vous allez devenir plus intelligent. Vous allez pouvoir être autonome, vous n'aurez pas besoin de Dieu. Et vous allez être comme des dieux. OK? Ici, Monsieur Antoine de Saint-Exupéry, qui est l'auteur du livre Le Petit Prince, on connaît pas mal, et lui a dit, « Peu importe que Dieu n'existe pas, Dieu donne à l'homme la divinité. » Donc, c'est l'homme qui prend la place, on déplace Dieu. Et le mensonge, ce que Dieu veut du diable, Dieu veut vous garder inférieur à lui, et vous êtes capable de vous passer de lui. Et ils se sont laissés séduire par le miracle ou le mirage de l'autonomie. Ils ont péché aussi par orgueil, en voulant être semblable à Dieu. Et encore aujourd'hui, les hommes croient que la grandeur, c'est notre autonomie. Plus je suis autonome, plus je suis autosuffisant, plus je suis fin, plus je suis capable. J'ai pas besoin des autres. Donc, je suis capable tout seul. C'est humiliant d'être obligé de dépendre de Dieu. Et j'ai pas besoin de Dieu pour assurer mon bonheur, je suis capable. Et on se souvient du Titanic qui a coulé 1912-1914, et un des matelots a dit avant le départ, ce bateau, je vais dire les paroles exactes, le bateau est insubmersible et même Dieu ne pourrait pas le faire couler. C'est un affront à Dieu. Et on voit qu'est-ce qui s'est passé. Et en passant, la quatrième cheminée vers l'arrière du Titanic, c'était pas une vraie cheminée. C'était les ventilateurs de la cuisine qui allaient dedans. Et c'était juste question esthétique ou pour montrer que, waouh, majestueux, quatre cheminées, il n'avait jamais fait ça, un bateau comme ça. Donc, il y avait le prestige, l'orgueil qui était aussi derrière cette réalisation titanesque, on dit. Donc, Adam et Ève ont cherché la sagesse de la vie en dehors de Dieu. Donc, l'homme a toujours voulu décider par lui-même de ce qui est bien ou ce qui est mal. Ça ici, c'est le sigle de l'humanisme. On voit, c'est comme un homme qui est là. Et American Humanist Association, aux États-Unis, c'est très, 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 très fort. C'est très, très fort. Au Québec, on en a aussi. Je vais vous montrer des choses tout à l'heure. Donc, c'est une association qui est très forte aux États-Unis. Je vais vous citer quelque chose dans un livre qui s'appelle « La séduction de la chrétienté », écrit par M. Dave Hunt et M. Thea McMahon. Il dit, mais on citait un historien qui dit, « Le fait d'exalter l'homme au statut de divinité remonte par conséquent aux époques les plus reculées de l'Antiquité. » Donc, le fait que l'homme, on dit que c'est un dieu, ça vient de loin. Mais, sa transformation en une idéologie acceptée par la grande masse est un trait caractéristique de notre époque moderne. Donc, avant ça, c'était une minorité, l'intellectuel, philosophe qui disait ça. Mais aujourd'hui, c'est accepté par une grande masse que l'homme est un dieu. Vous avez entendu ça souvent, c'est sûr. Donc, et quand Jésus dit « Quand je reviendrai, tu verras la foi sur la terre », dans 1 Thessaloniciens ou 2, on parle de l'apostasie et tout ça. Donc, ça nous conduit vers cela, OK? Donc, les principales assises de l'humanisme moderne, c'est l'athéisme, donc Dieu n'existe pas, on peut pas le prouver. Ensuite, c'est l'évolution, puisque Dieu n'existe pas, l'univers est arrivé, existe par lui-même. Et les humains sont le résultat d'un changement évolutif non guidé. Ça veut dire, il y en a qui disent, oui, il y a l'évolution, mais c'est Dieu qui l'a guidé. Et eux disent, non, c'est pas Dieu qui a guidé ça, ça s'est fait. L'univers s'est fait par elle-même pour l'homme. Et une autre assise, c'est l'autonomie de l'homme. L'homme est le centre de l'univers. Puisque Dieu n'existe pas pour nous sauver, ben, il faut qu'on sauve nous-mêmes. L'humaniste moderne rejette la dualité corps-esprit-âme. Là, c'est trois, là. Donc, on a un corps, on n'a pas d'esprit. C'est pour ça qu'après la mort, c'est fini. L'esprit ne sort pas. Il n'y a plus rien. Et, nous sommes des animaux intelligents, tout simplement. Les hommes. Quoique des fois, on pourrait penser qu'il y a certains animaux qui sont plus intelligents avoir certains agissements. Ensuite, la nature est la seule réalité. Qu'est-ce qu'on voit, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on voit pas, ça n'existe pas. Le but de l'existence humaine est le bonheur terrestre et l'épanouissement personnel. Il faut en profiter. La vie est courte. Donc, tout ce qui procure le bonheur est justifié. Donc, la religion est une entrave à l'épanouissement de l'homme et grâce au progrès, le genre humain ne cessera de s'améliorer. Aux États-Unis, il y a eu 3 manifestes. Le premier date de 1933, c'est pas d'hier. 40 ans plus tard, le deuxième manifeste en 1973. Et 30 ans plus tard, en 2003, un troisième manifeste qui l'ont raffiné. Donc, chaque idéologie a son manifeste. Ici, une autre citation dans un livre qui s'appelle « Le Christ et l'humanisme moderne » écrit par M. G.I. Packer et Thomas Howard. Ils disent, en parlant de l'humanisme moderne, « C'est une idéologie culturelle agressive, un ensemble d'idées qui motivent des projets destinés à changer la vie des hommes. L'humanisme séculier ou moderne est une création récente. Il est le produit de la civilisation occidentale moderne. Il apparaît sous différentes formes, mais il est animé d'une conviction unique. Une conviction unique, l'évolution culturelle actuelle, en particulier scientifique, donc la science, prouverait que la religion est un phénomène irrationnel opposé au bonheur de l'homme. Donc, la religion, c'est pas rationnel, c'est pas calculable, on peut pas mettre une éprouvette dans une boîte. Donc, ça n'existe pas ou ça nuit au bonheur de l'humanité. Ensuite, c'est pas vraiment flatteur pour nous, là. Seuls ceux qui sont conscients de leur solitude dans l'univers et de l'inexistence de Dieu et de l'inutilité de toute Église seraient capables de prendre des décisions adéquates pour affronter l'existence. Donc, si tu crois à Dieu, tu vas à l'Église, puis tu pratiques une religion, t'es pas capable de prendre des bonnes décisions. T'es vraiment biaisé. D'après ces auteurs, l'humanisme moderne est en partie dû à une réaction causée par les blessures de la religion. Ouais. Blessures infligées, des erreurs infligées par erreur qui ont été faites, et principalement aux États-Unis, où c'est plus perceptible. Aux États-Unis, bon, le protestantisme est là depuis longtemps, il a évolué génération en génération, et on a eu des ultra-conservateurs, on a des gens qui... ont encore le message de la Bible, mais ils n'ont pas vraiment l'esprit de Dieu. Ils deviennent plutôt légalistes. Et ça, beaucoup de jeunes ont été blessés par des parents légalistes, des éducateurs légalistes. Et les gens ont rejeté la religion de leurs parents et Dieu avec. Et donc, c'est une réaction aux blessures causées par le protestantisme conservateur, autoritaire, légaliste. Et donc, c'est compréhensible aussi que les jeunes aient rejeté. Et lorsque les gens vivent une telle blessure, ils deviennent plus agressifs pour vouloir pour s'opposer à Dieu. Bien, ici au Québec, on a aussi un mouvement qui est humaniste, séculier. Et au Québec, on connaît, sur notre génération, on a connu le catholicisme rigide, austère et... Ça, ça a été un terreau fertile à l'émergence de l'humanisme moderne. Personnellement, dans les années 70, j'étais un anti-Dieu et un anti-religion. Quand on me parlait de Dieu, de Jésus, je me mets en colère. Pourtant, je suis un gars très pacifique, puis c'est la seule chose qui me mettait en colère. Et quand il y a des évangéliques qui venaient, qui me parlaient de Jésus à l'université, j'étais même pas poli avec eux autres. C'était pas mon style, hein. Je les respectais même pas. Il y avait une colère en dedans. Et ça, c'était une réaction, une blessure qu'on appelle l'abus spirituel. Donc, parce que la religion catholique de mon enfance était exigeante, autoritaire, et il nous présentait un Dieu qui était comme ça, un Dieu qui était distant. Et éventuellement, j'ai été désabusé par l'hypocrisie des hommes, qui me présentaient un faux Dieu, mais j'ai rejeté Dieu avec aussi, j'ai tout rejeté. Mais je comprenais pas pourquoi je me mets en colère comme ça en dedans. C'était pas normal, oui, il me parlait juste de Jésus. Mais c'est comme si ça grattait la blessure. Puis là, vous autres, vous grattez pas ça encore. Fait que j'étais même pas capable de rester avec eux. Je m'en allais de façon très, très impolie. OK? Parce qu'on avait abusé de ma naïveté d'enfant. Et j'avais l'impression que c'était pas juste ça. Comme enfant, j'étais vraiment croyant. Et je me suis aperçu de m'amener que je m'étais comme fait abuser spirituellement là, des choses qui ont été imposées qui n'auraient pas dû l'être. Mais j'avais rejeté Dieu, la religion, mais j'avais gardé une petite partie à Dieu. Si tu existes, tu n'es pas ici. Mais habituellement, les gens rejettent la religion de leurs parents, ils rejettent Dieu avec. Et ici, on a le... On n'est pas en reste, on a le sigle de l'humaniste de québécois, Association humaniste du Québec. Et en haut, on met la voix des athées et des agnostiques. Bon, les athées, c'est les gens qui ne croient pas en Dieu. Et agnostiques, c'est ceux qui disent « on ne peut pas savoir ». On ne sait pas que Dieu existe. Et qu'est-ce qui m'a frappé là-dedans? C'est qu'à l'origine, l'humanisme, c'était pour l'homme. Pour un idéal pour que l'homme assure son bonheur. Et c'était ça qui était véhiculé. L'humanisme, c'est pour l'homme. Et ici, on voit que leur principale préoccupation, c'est d'être athée et de dire que Dieu n'existe pas. C'est drôle, hein? C'est pas la voix des minorités et des ceux qui ont besoin ou qui se cherchent. Je sais pas. Donc, ils mettent l'accent sur l'athéisme et l'agnosticisme. C'est un peu drôle. Et je comprends la frustration et le zèle des Québécois qui militent pour la laïcité. Ils veulent enlever Dieu partout. Parce que, comme Québécois, on a une blessure et quand on voit des signes qui nous montrent Dieu, ça nous met une colère sans qu'on s'en rende compte des fois. OK? Et plusieurs humanistes ont été choqués par le comportement de chrétiens ou de soi-disant chrétiens. OK? Mais malheureusement, leur humanisme a pris une forme de croisade pour anéantir le christianisme. Donc, c'est pas nécessairement bon. Et on peut pas approuver leur attitude, mais on peut les comprendre. Et même Jésus s'était opposé avec vigueur aux religieux du temps. Hein, il traitait les scribes, les pharisiens d'hypocrites, hypocrites, sépulcre blanchi, etc. Vous mettez des fardeaux sur les épaules des gens que vous ne pouvez pas porter vous-même. Donc, Jésus était vraiment direct avec les religieux du temps. Et on va voir trois conséquences du rejet de Dieu. C'est que on a la guerre contre le christianisme, recherche du bonheur sur terre, ça va être une autre prédication, et l'immoralité qui va découler de cela. Et même si l'humanisme moderne, elle essaie de garder les valeurs de Dieu, dans le sens de la bonté, l'amour du prochain, le respect, l'entraide, elle rejette Dieu. Donc c'est dur de continuer à porter des fruits de l'esprit sans l'esprit ou sans Dieu. Et je vais vous montrer un sigle là, américain. Good without God. Bon sans Dieu. Donc, pour eux, on peut être bon, avoir la bonté, faire des bonnes choses, mais on n'a pas besoin de Dieu. Alors que le chrétien dit Dieu, par Dieu, on peut être bon. Et il y a des campagnes publicitaires, littéralement, aux États-Unis, là. Vous voyez ici, sur le bord de la route, des millions sont bons sans Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Donc, ils sont vraiment une idéologie qui est agressive. Une autre encore... Pas Dieu, pas de problème. Donc ça, je ne sais pas si c'était dans un magazine, je ne sais pas, là. Je l'ai pris sur Internet. Donc, on arrache les valeurs de Dieu, on dit on n'a pas besoin de Dieu, mais on est quand même capable nous-mêmes d'être bons, de faire des bonnes choses. On voit les résultats. Donc la guerre contre le christianisme, quelques petits exemples entre le christianisme et l'humanisme, ça vient aussi du livre de M. Parker et M. Howard. Il dit, d'après l'humanisme moderne, il n'y a pas de créateur à adorer, ni de rédempteur à aimer, ni d'image de Dieu à voir chez notre prochain. Alors que le christianisme dit, le fondement de toute vie vraiment humaine implique le culte rendu à Dieu, l'amour du prochain, la justice d'autrui et la vie éternelle. Et pour l'humanisme moderne, il n'y a aucune vie éternelle après la mort à espérer. Pour l'humanisme moderne, le christianisme avilit l'homme. Pour le christianisme, l'humanisme moderne ravale l'homme au rang d'animal, qui l'incite à vivre sans Dieu. Et ensuite, pour l'humanisme moderne, la seule réalité est celle des choses qu'on voit de la science, qu'on peut étudier, calculer, quantifier. La vie s'arrête au dernier battement du cœur, donc il faut rechercher plaisir au maximum, parce qu'on n'a pas tellement longtemps sur Terre. Pour les chrétiens, l'homme est un être immortel, d'une valeur infinie, appréciée de toute éternité, et par Dieu et appelé à l'adorer par un Dieu qui l'a créé. Pour les humanistes, la religion est une entrave pour l'homme et le bon sens impose d'y renoncer. Pour le christianisme, cette conception-là du modernisme ou de l'humanisme, c'est une négation irrationnelle des instincts et des intuitions les plus profondes de l'être humain, causées par le péché. La Bible dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est là. Et on ne peut pas nier ça. Donc, on s'attaque au christianisme. La principale cible, tenez-vous bien, ce sont les enfants. Donc, attaque au christianisme, j'avais oublié celle-là. Prochaine cible, les enfants. Ici, même genre de promotion, les enfants sont Dieu. Les enfants sans Dieu. On peut également dire qu'ils sont Dieu des fois, ils sont rois au moins. Donc, on enseigne aux enfants, Dieu est imaginaire. Et Dieu est contraire à la science. Nous sommes le produit de l'évolution. J'ai parlé tout à l'heure d'un manifeste qui a été signé en 1933, le premier. Il y avait 58 signataires. Puis des 58 signataires, il y en a 33 qui étaient des éducateurs, des enseignants. OK? Et je vais vous lire deux extraits. Un premier ici qui vient d'un livre, Humanisme, A New Religion, 1930, de Monsieur Charles F. Potter. Qu'est-ce qu'il dit? L'éducation est le plus puissant allié de l'humanisme et chaque école américaine est une école d'humanisme. Qu'est-ce qu'une seule heure d'enseignement à l'école du dimanche, une fois par semaine, et qui est donnée seulement à une partie des enfants, peut faire contre un programme de 5 jours par semaine d'enseignement humaniste? Terrible, hein? Lui dit, ils sont juste une semaine à l'école du dimanche, pour ceux qui y vont, puis nous, on les a 5 jours par semaine à l'école. C'est gagné d'avance. Je trouve ça malheureux, mais je veux pas dire l'école du dimanche, là, baissez les bras. On a besoin de vous autres. C'est vraiment bon ce que vous faites. Continuez. Ce que vous donnez, beaucoup de gens connaissent le Seigneur à l'école du dimanche, se rappellent des enseignements. Mais on voit un peu comment est-ce que... C'est une guerre ouverte, qu'on le veuille ou non. Un autre humaniste, M. John Donfey, dans un essai publié dans le magazine The Humanist Magazine en 1983. Il va illustrer aussi cette stratégie. Le combat pour le futur du genre humain doit être engagé et gagné dans les classes de l'école publique par des enseignants qui perçoivent correctement leur rôle de prosélyte d'une nouvelle foi. Donc, un prosélyte, c'est quelqu'un qui veut convaincre les autres de prendre sa foi. Okay? Donc, il appelle ça une nouvelle foi. Hein? Donc, c'est pratiquement une religion. C'est une nouvelle foi en rien. Donc, il appelle ça une religion de l'humanité. Donc, les professeurs utilisent une salle de classe au lieu d'une chaire pour promouvoir les valeurs humanistes à travers tout ce qu'ils enseignent. La salle de classe doit devenir une arène de conflit entre l'ancien et le nouveau. L'ancien, c'est les valeurs, c'est croire à Jésus-Christ, et le nouveau, c'est la foi humaniste. Et ici, je vais vous dire des mots que j'ai pas aimés quand je les ai lus. Excusez pour vos oreilles sensibles, mais c'est ça qu'il a écrit. Ça nous aide à comprendre comment ce qu'il nous considère. Donc, lui, il considère l'ancien. Il dit, l'ancien, c'est le cadavre pourri du christianisme. Arc. Y a-t-il quoi de plus repoussant qu'un cadavre? Dans le fond, on lui dit que le christianisme est mort, puis ça sent pas bon. Il parle du christianisme avec ses maux et sa misère. Contre, dans la reine, la foi nouvelle de l'humanisme. C'est merveilleux. C'est terrible, hein? Quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow, ça ne peut pas qu'il ait écrit ça. Je ne le répète pas, là. Mais c'est ça qui est écrit. Donc, l'influence de l'école, d'après lui, doit primer sur celle des parents. Et il y a un extrait ici du site Internet de l'Association humaniste du Québec. Ça dit, le manifeste de 1933, le premier, fut écrit pour attirer l'attention du public vers un mouvement qui rejetait explicitement toute forme absolue d'autorité. Donc, forme absolue d'autorité, la Bible est un absolu, une forme absolue d'autorité. Les parents sont une forme d'absolu pour les enfants. Les enfants doivent obéir aux parents. Et, je me souviens, 1987, ma petite fille Valérie avait commencé sa maternelle. Puis elle menait à la balançoire, puis elle chantait une petite chanson qu'elle avait appris à l'école. Les paroles m'ont accroché. Ça disait, mon papa ne veut pas que je danse la polka. Jusque-là, ça va bien. Ensuite, ça dit, il dira ce qu'il voudra, moi je danse la polka. Puis là, on me disait, pourquoi est-ce qu'ils mettent ça? Belle petite chanson, puis les paroles, c'est intentionnel. Moi, je danse, mon papa, il veut pas, je le fais pareil, il dira ce qu'il voudra, je le fais pareil. C'est cute. Et pour que vous reposiez de ma voix, on va écouter cette petite chanson-là. C'est charmant, c'est cute, hein? Mais les paroles auraient dû être différentes. Et je crois que c'est une façon intentionnelle d'impliquer des choses aux enfants où on enlève l'autorité aux parents. Et quand moi j'étais au primaire, à l'école publique, on m'enseignait le petit catéchisme avec la création, la chute de l'homme, le péché, la trinité, l'incarnation, la résurrection, le ciel et l'enfer. On a pris ça, on l'a tenu pour acquis. Quand tu arrives au secondaire, c'était différent. On nous a parlé de Charles Darwin, sa théorie de l'évolution, et on n'a fait aucune nuance, dans mon cas en tout cas, aucune nuance disant que c'était une théorie qui pouvait avoir aussi la création. C'était ça. Puis tu écrivais ça dans ton examen, t'avais tes points, tu sais, c'est croire la théorie de l'évolution. Et aussi, on a, vous voyez ici, je ne sais pas si ce sont des chandails encore, « Good without God », les adolescents en portent aussi. Donc, on veut aller chercher la jeunesse. Et on comprend pourquoi, avec un tel mouvement de fond, l'enseignement religieux à l'école et les écoles confessionnelles en public ont disparu. C'était inévitable. On peut comprendre que c'est pas aux contribuables à payer, dans l'ensemble à payer pour dispenser l'enseignement religieux à une certaine partie de la population. Mais qu'est-ce qui est frustrant, c'est de voir qu'il y a un enseignement intentionnel de l'humanisme moderne à l'école. Puis, je vous le dis, là, peut-être que vous ne le saviez même pas. T'sais. Moi, je l'ai appris comme ça, à travers les branches, en lisant les choses. Donc, ça se fait. On ne nous dit pas, « Hey, là, on veut remplacer Dieu. Hey, là, les parents, on vous enlève l'autorité. Là, on enlève l'autorité au gouvernement, on enlève l'autorité à la Bible. » Non, mais c'est insidieux et ça se fait. Donc, on a vu que la première cible, c'était la jeunesse. Une autre cible, c'est enlever toute connotation religieuse dans l'espace public, principalement celle relative au christianisme. Si on se souvient, la saga, ville de Saguenay, le maire Tremblay, monsieur le maire, qui voulait faire la prière en public. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce genre de prière-là, je vais vous dire d'avance. Parce que, comme ancien catholique, on sait que ce sont des prières apprises d'avance et ça monte pas plus haut que le plafond. On rit presque de Dieu en récitant toujours les mêmes choses. Sauf qu'il y a des gens que ça les frustrait. Probablement des catholiques, d'ex-catholiques comme moi, qui avaient une blessure, là. Puis le fait qu'on parlait de Dieu, ça les indisposait. Et ils ont voulu l'enlever. Et en disant, bon, c'est à cause des minorités religieuses, pour les minorités religieuses. Alors que c'était pas les gens des minorités religieuses qui s'opposaient, c'était des anciens catholiques, des Québécois. Et à Saguenay, il y a moins de minorités qu'à Montréal, disons. Okay? Donc, le but, c'était d'enlever toute référence à Dieu. OK? Enlever référence à Dieu. Aussi, j'ai parlé tout à l'heure, le mot Noël. Le mot Noël veut dire naissance. Et on hésite aujourd'hui à dire Joyeux Noël parce que ça fait référence à la naissance de Jésus. OK? Joyeux Noël, je suis rendu politiquement incorrect. J'avais une rencontre avec les ex de la ville de Trois-Rivières, vu que je suis retraité, et avant Noël. Et les gens disaient « Joyeux temps des fêtes, joyeux temps des fêtes ». Je répondais « Joyeux Noël ». J'étais surpris de dire que les gens disaient « Joyeux temps des fêtes ». C'est généralisé. Les anglophones, c'est encore plus explicite, c'est « Christmas ». Il y a le mot de « Christ » dedans. Et mon gendre qui vient de Manitoba me disait que dans le Parlement ou dans l'espace public, lorsqu'il parle d'un Christmas tree, je ne sais plus comment appeler ça, là, un arbre des fêtes. T'sais. Donc, ils sont abêtés. Je vais vous montrer quelques petites images. Si c'est « Attention, je vais dire Merry Christmas ». Donc, aux États-Unis encore, il y a une vague aussi de chrétiens qui disent « Oh, ben, on va aller contre le mouvement humaniste pour montrer que c'est, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là, là, on ne peut même pas dire « Joyeux Noël ». OK? Un autre ici, on a une crèche, on voit Mary politically incorrect. Donc, c'est politiquement incorrect. Puis Chris, il est souligné. OK? Donc, ça montre un peu l'idéologie qui est derrière ça. On ne peut plus employer certains mots. Je vous encourage à continuer à dire Joyeux Noël. Et qu'est-ce que Jésus pense de ça? Qu'est-ce que Jésus aurait à nous dire? Et certains Américains ont mis une enseigne sur le bord d'autoroute où ils ont fait parler Jésus. Donc, ça me manque de t'entendre dire « Merry Christmas » signé Jésus. Quelque chose, hein? Ça m'a touché quand j'ai vu ça. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, Jésus, est-ce que je te le dis souvent que je t'aime? » Je te le dis peut-être pas si souvent que ça. Ben là, je te le dis, Jésus. Je t'aime, on t'aime. Parce que tu nous aimes le premier, tu nous aimes plus qu'on t'aime même. Donc, ça a touché un peu de voir que Jésus nous dit « Ça me manque, ça. » Que mon peuple, le peuple américain, qui était la Constitution, était sur des bases bibliques vraiment chrétiennes, mais qui s'est rejeté par-dessus bord en majorité. On peut parler du crucifié à l'Assemblée nationale. Moi non plus, je ne suis pas pour le crucifié comme chrétien, mais les gens m'ont demandé de l'enlever parce que ça... J'ai pas mis d'image, là, parce que dans les églises, on ne met pas de crucifix. On avait demandé de l'enlever, sauf qu'ils l'ont gardé pas pour des raisons religieuses, mais des raisons patrimoniales. Il est là depuis longtemps, puis s'il a fait partie de l'histoire du Québec, enlever le crucifix à l'Assemblée nationale, on fait pas ça. OK. Je sais pas si vous vous rappelez l'arrestation des Femmes, en octobre 2013, des Femmes. C'est des femmes qui manifestent assez ouvertement. Donc, il était mis dans le... ouvertement. Il s'était mis au balcon de l'Assemblée nationale et ils ont enlevé leur chandail, deux femmes, je pense, deux ou trois, et ils criaient « Crucifix d'école ». Un verbe avec un ancien sac catholique, je le dirais pas. Et c'est sûr qu'ils l'ont fait arrêter puis tout ça. Ils ont répété ça tout le temps. Pourquoi le crucifix? Ben c'est parce que ça rappelle Dieu, la religion, le surnaturel. Moi, le crucifix, je l'enlèverais par obéissance à Dieu, parce que Dieu nous dit dans Exode, chapitre 20, verset 4, « Tu ne te feras pas de statue ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre. » Donc, parce que maintenant, on est porté à adorer ces choses-là au lieu d'adorer Dieu. Donc, Dieu ne veut pas qu'on ait ces choses-là. OK? Et Dieu ne veut pas qu'on prenne des statues. Et j'ai pas mis de photo des femmes pour une raison que vous comprenez. Maintenant, quelques applications. Prendre au sérieux l'éducation des parents, des enfants. Comme je disais, je félicite l'école du dimanche pour le bon travail qu'ils font. Et c'est important que les parents continuent d'enseigner à leurs enfants la parole de Dieu. Et pas juste l'enseigner, mais la démontrer par leur vie que c'est vrai. Que sont transformés, que c'est vrai la vie avec Jésus, qu'on est des nouvelles personnes, qu'on est heureux, on est différent des autres. Mais si tu savais qu'est-ce qu'on a, on a la vie éternelle, on a Jésus avec nous. Et être des modèles pour nos enfants et nos petits-enfants, donc, qui suivent derrière nous. Je dis des fois, donner à nos enfants le goût de Dieu. Qu'est-ce que les enfants vont voir chez nous? Ça va leur donner le goût de suivre le Seigneur. Est-ce qu'on dit, wow, c'est merveilleux. Donc, si j'ai blessé mon enfant par mégarde, par erreur, ou je me suis emporté, pourquoi ne pas lui demander pardon? Oh, ben, je suis parent, moi, là, il ne me respectera plus. Si je lui demande pardon, puis je fais bien ça, puis papa, il s'est trompé, il n'aurait pas dû faire ça, je lui demande pardon. Votre enfant va vous respecter beaucoup. Mais si vous le blessez, puis vous ne demandez pas pardon, il va s'éloigner. Et aussi, soyons le même chrétien à l'église qu'à la maison. Hein? Tout souriant à l'église, ça va bien. Tu arrives à la maison, puis là, c'est la colère, puis prends ton trou, puis... Ou parler en mal des autres. Parler en mal de... Si vous voulez parler en mal de ce que vous avez entendu ce matin en avant, attendez que les enfants soient couchés. Si vous voulez parler en bien, faites-le devant eux. Mais faisons attention à ça. Une autre application, c'est être prêt à marcher à contre-courant. Donc, la tendance bien vue à notre époque, c'est d'affirmer que le christianisme, c'est bon pour vous autres, mais c'est pas la seule vraie religion. Il peut en avoir d'autres. OK, c'est beau, vive la tolérance. Toutes les religions sont bonnes, on a tous le même Dieu. L'important, c'est de croire quelque chose. Tu peux pas m'imposer ce que tu considères comme étant la vérité. Ce qui est vrai pour toi n'est pas vrai pour moi, puis le contraire aussi. Nous, on a la parole de Dieu. Et Jésus nous dit, dans Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Savez-vous que Jésus n'est pas le seul chemin? Parce qu'il y en a deux chemins. Il y a le chemin qui mène à la mort, le chemin large. Mais le chemin qui mène au Père, il y en a un seul. C'est celui-là, Jésus. Il est le seul chemin. Et on ne peut pas dire, il y en a d'autres chemins, il y a d'autres choses. On n'est pas capable. Et parce qu'on ne dirait pas la vérité. Et dans notre société, la tolérance, c'est une vertu. Et si on affirme que Jésus est le seul chemin, on va être taxé d'être intolérant, de plus en plus. Okay? Alfred Kuhn, dans son livre « Les défis de la postmodernité », il a cité un auteur qui s'appelle Blaise Pascal. Blaise Pascal, c'est un inventeur, mathématicien des années 1600, qui s'est converti au christianisme. Blaise Pascal, il disait, bon, je cite M. Kuhn, « C'est un crime, disait Pascal, de rester silencieux lorsque la vérité est détruite. Il nous faut avoir le courage de nager à contre-courant et d'être considéré comme faisant partie d'une contre-culture. » Donc, c'est un crime de rester silencieux quand la vérité est détruite. Donc, proclamer la vérité n'est pas toujours bien vu, mais l'ignorance et le mensonge sont cruels. Je vous donne un exemple. Okay. Si, parce que le mensonge crée des dommages éternels, on envoie des gens en enfer pour l'éternité, ils empêchent d'être sauvés. Je vous donne un exemple. Je m'en vais la nuit sur la route, et une route de campagne, puis hop, puis quelqu'un qui m'arrête, il dit « Danger, danger ». Le pont est brisé en avant, gros pont, puis le précipice, là, c'est plusieurs mètres. Si tu continues, tu tombes dedans. L'auto en avant de moi, je l'ai vu disparaître, puis je peux pas y aller, il est dans le fond du trou. J'ai téléphoné à la police, à la sécurité pour qu'ils viennent mettre des barrières et tout ça. En attendant, je me contente d'arrêter le monde. Pff, merci de m'avertir. Je suis entrefait, il y a quelqu'un qui arrive. On l'arrête. Hey, il y a un précipice là. Tu peux pas passer là. Oui, je vais. Non. Si t'es pressé, ben on n'a pas le choix. Il y a une autre voie plus sécuritaire que tu peux prendre. Retourne un peu sur tes pas, prends cette voie-là. Plus étroite, plus difficile, mais si tu continues ce chemin-là, tu vas te tuer. Hey, je passe ici à tous les jours, puis quand ils ont fait le pont, j'étais là, puis il est solide. Il décolle. Vous savez la suite? Dans le trou, il est mort. Donc, c'est un peu ça, la vérité. C'est pas relatif. Des fois, on dit qu'il y a plusieurs vérités. Il y en a une vérité concernant le salut, c'est Jésus. Et si on veut l'ignorer, on s'en va vers un autre chemin qui est la mort. On est libre de choisir Jésus ou pas, mais on n'est pas libre des conséquences. Dans Proverbes, chapitre 14, verset 12, le psalmiste, Salomon nous dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. » Donc, ça paraît droite, mais au bout, c'est la mort, au bout du quai. Et qu'est-ce qui est arrivé au monsieur? Chemin brisé, pont brisé, tombé. Donc, il était pas... Il pouvait choisir sa route, mais il ne pouvait pas choisir les conséquences. Pour ce qui est de nous maintenant, dans Jean chapitre 6, versets 67-68, Jésus dit donc aux 12, « Et vous ne voulez pas aussi vous en aller? » Parce que Jésus avait mis la barre haute pas mal, et il y en a qui sont partis. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est ça qu'on a chanté tout à l'heure, « À qui irions-nous? » Donc, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Pourquoi aller ailleurs? Pourquoi fuir Jésus? Pourquoi dire non plus tard? Pourquoi attendre? C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. L'autre application concernait une attitude d'humilité. c'est que l'apôtre Pierre nous incite à garder une attitude d'humanité, peu importe ce qu'on nous demande, raison. Je vais avancer un petit peu. Ici, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, il dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ, le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. » Donc, on n'impose pas la vérité là avec la force. Donc, on doit le faire par douceur et crainte, se défendre, pas avec les poings, mais avec douceur. Parce que les gens sont bombardés de tellement d'informations que c'est un peu normal qu'il y ait de la misère à croire comme ça. Donc, dernière application, être miséricordieux et compréhensif. Dieu est patient avec nous. Et comme on a dans Éphésiens chapitre 2, Paul nous dit, nous étions comme eux, nous étions du monde, mais Dieu, riche en miséricorde, nous a rachetés. Donc, soyons nous aussi miséricordieux envers les gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre. Et on comprend un peu pourquoi ils ne comprennent pas, parce qu'il y a tellement d'informations et où est la vérité dans tout cela? Il y a certaines choses à m'amener, les canulars. Vous savez, c'est quoi, canulars? Des choses qu'on dit, qu'on pense que c'est vrai. Fait quand ça s'avère un canular. Donc, ah, c'est pas vrai. Donc, les gens, il y a des choses qu'ils prennent pour vrai, puis à un moment donné, on dit non, c'est pas vrai. Donc, ça crée la suspicion. Je sais pas si vous avez vu la petite vidéo sur Internet. C'est un aigle, là, qui allait dans un parc à Montréal. Il enlevait un enfant. C'était vraiment bien fait, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un canular. C'est un montage. Voyons, qu'est-ce qu'on peut croire? Qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a plus rien de vrai. Ça mine la crédibilité. Donc, on peut comprendre les sceptiques. On comprend pourquoi ils ne comprennent pas, mais ils devraient chercher à comprendre. On parle à Thomas. Thomas, il dit, moi je ne croirais pas, là, parce que Thomas voulait avoir des preuves. Il voulait voir les marques des mains de Jésus, ses pieds. Et parce que Thomas ne voulait pas risquer sa vie pour un Christ qui n'était pas ressuscité. Okay? Donc, il voulait avoir la vérité. Donc, il cherchait la vérité. Et Dieu l'a respecté, il est venu le revoir. Donc, c'est pas parce que la vérité est dure à trouver qu'on ne doit pas chercher. Dieu, dis-moi là, reviens. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Peut-être que ce n'est pas Dieu que tu t'appelles. Toi qui m'as créé. Peut-être que Dieu, ça fait trop religion pour certains. Toi qui m'as créé, révèle-toi à moi. Okay? Et il y a aussi les scandales religieux, les prédicateurs américains qui ont fait des scandales. On a les problèmes de pédophilie dans le catholicisme. Donc, beaucoup de gens rejettent Dieu à cause de la conduite des hommes. C'est malheureux. Mais c'est pas une raison pour dire, oui, je ne vous parle plus de la vérité, même si les gens nous trouvent capotés. La parole de Dieu dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour ceux qui ne croient pas, mais pour nous qui croyons, elle est une puissance de Dieu. Donc, même si on comprend leur réaction, on doit continuer à leur parler par amour pour eux, comme Dieu le fait. Jésus savait la réaction des gens sur la terre, il savait qu'ils seraient rejetés. Il a parlé, Jésus, mais au prix de sa vie. Dans un prochain message, ça va être la suite, j'ai pas pu tout dire, c'était prévu aussi, on va regarder, à cause de ce mouvement-là, cette idéologie-là, l'homme ayant rejeté Dieu, maintenant il recherche le bonheur sur la terre. Qu'est-ce que ça... Et il y a aussi l'immoralité qui va découler de cela. Et peut-être un troisième message, on va parler d'un autre phénomène qui s'appelle le postmodernisme. Vous apporterez votre oreiller. Puis, on va essayer de rendre ça pas trop endormant. Je vais terminer par la prière. Après ça, l'équipe de louange pourra venir. Notre Dieu, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et notre Dieu, on te prie de nous rendre sensibles aux besoins de ceux qui sont loin de toi, qui ne te connaissent pas. Et on te prie qu'on soit des modèles, Seigneur, pour donner aux autres le goût de Dieu, principalement à nos enfants. Et Seigneur, apprends-nous à parler de l'Évangile avec douceur, miséricorde, bonté. Et je te prie que les gens soient attirés par notre, pas seulement ce qu'on dit, mais par la façon dont on vit. Et on te prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Merci, Yvan.